Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous Histoire et Mémoire sur Radio Grand Ciel. Pour cette troisième et nouvelle saison, avec mes collègues archéologues de la ville de Chartres, nous vous proposons des sujets nouveaux ou des approfondissements sur l'histoire locale. Grâce aux découvertes et études archéologiques, le sous-sol et les bâtiments de Chartres sont une véritable mine d'informations sur l'évolution de notre cité. Et nous vous invitons, chaque mois, à partager ces connaissances. Les journées du patrimoine viennent de se dérouler, les 16 et 17 septembre dernier. Et à cette occasion, la direction de l'archéologie a pu présenter une exposition sur les mottes castrales, les premiers châteaux forts, et évoquer Chartres autour de l'an 1000. Et aujourd'hui, pour cette émission de rentrée, avec moi, Thomas Lécroer, qui est archéologue médiéviste. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Alors Thomas, quelles sont les données archéologiques ou historiques à votre disposition pour étudier Chartres autour de l'an 1000? Quelles sont un peu les pistes d'investigation de l'archéologue, puisque l'émission est, rappelons-le, toujours l'occasion de découvrir un peu les différentes facettes de ce métier passionnant?
Alors pour tout ce qui est période de l'an 1000, on a essentiellement des sources ecclésiastiques, notamment des chroniques qui sont écrites par les moines, ou alors les cartulaires qui sont les sources de titres de propriété, les ensembles de titres de propriété des établissements religieux.
D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres sources d'informations, à part des choses écrites? Est-ce qu'il y a des gravures ou des dessins ou des choses comme ça?
L'iconographie pour l'an 1000 est quand même très rare à ma connaissance. Après, on a aussi une iconographie de ce qui s'est passé en l'an 1000, mais qui n'est pas une iconographie contemporaine. Donc il faut s'en méfier. On a par exemple une miniature qui est très connue, qui est conservée dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale, sur la prise de Chartres, le siège de Chartres par Roland en 911. Et c'est une miniature qui date du 15e. Donc c'était un événement qui se passe au 10e, mais avec des éléments du 15e, notamment la porte Guillaume, des armures 15e, etc., etc.
Donc il y a une déformation un peu de la réalité.
Voilà, une déformation. Il faut se méfier de la date de la source.
Et au niveau archéologique, est-ce qu'il y a des vestiges de sites, des bâtiments ou des objets qui vous aident dans vos recherches pour cette époque-là, autour de l'an 1000?
Pour l'an 1000, on a pour le moment très peu de vestiges vraiment conservés et vraiment étudiés. On peut citer au moins le clocher-porche de Saint-Pierre, qui a été construit aux alentours de l'an 1000. Et quelques sites qui ont été fouillés, notamment la rue Fulbert, où on a des éléments 10e, 11e, mais c'est assez rare.
Et pourquoi vous avez des traces si ténues sur le territoire chartrain?
Déjà, on a le problème du centre-ville qui est occupé, puisque la ville médiévale recouvre actuellement la ville, la ville actuelle recouvre la ville médiévale dans l'enceinte des boulevards. Donc, c'est des problèmes de place, la faible opportunité d'aménagement en centre-ville sur des espaces assez importants pour pouvoir étudier. Et après, tous les travaux qui ont été faits dans les années 70 n'ont pas forcément été suivis à l'époque. L'archéologie n'était pas systématique. Donc il y a eu aussi des destructions à cette époque.
Donc en fait, les vestiges ou sont encore sous certains ensembles immobiliers actuels ou du coup ont été peut-être arasés par des précédents aménagements. En gros, c'est ça, Thomas?
En gros, c'est ça et on pourrait encore avoir beaucoup de choses à découvrir.
Donc, affaire à suivre selon les aménagements. Mais comment, là, arrivez-vous tout de même à faire une synthèse? Notamment, là, je vois dans le magazine municipal Votre Ville de septembre, on peut y voir une carte de la cité chartraine. Alors, dites-nous comment vous avez pu la reconstituer, du coup?
Alors, en fait, c'est pas une carte reconstituée, c'est pas une carte. C'est une carte indicative. Il n'y a pas forcément de l'exactitude. Et c'est une méthode qui est utilisée par rapport à l'étude du cadastre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le dessin du parcellaire d'une ville dépend beaucoup d'éléments plus anciens, d'obstacles comme une enceinte ou un cours d'eau. Et l'enceinte va forcer la limite des parcelles. Les rues vont être aussi dessinées par
selon
les différents obstacles. Et à partir de ça, en étudiant les différentes unités de plan qu'on a dans le parcellaire, on peut réussir à restituer des éléments, des enceintes, des anciens trajets, des anciennes portes.
Et donc là, vous avez réussi à dessiner à peu près les contours de Chartres selon effectivement donc ces parcelles et ces éléments contraignants. Et ça, on peut le voir du coup dans le magazine. Et tout au long de l'émission, du coup avec Thomas, c'est Thomas qui va nous dresser en fait un panorama de Chartres avant, pendant et après l'an 1000. Alors on va commencer tout de suite notre voyage dans le temps, dans votre émission Histoire et Mémoire. Pour nos auditeurs, Thomas, quelle était la situation politique de Chartres au début des années 800 à 900 que l'on évoque aujourd'hui?
Eh bien, Chartres est déjà le siège d'un évêché, c'est une ancienne capitale de cité antique. Donc, étant le siège d'un évêché, c'est sous l'emprise politique de l'évêque et du chapitre de chanoines de la cathédrale. Donc, on a d'un côté l'évêque et l'évêché, de l'autre côté le chapitre de chanoines qui gère les affaires de la cathédrale. Et chacun ont leur justice et leur domaine respectif, chacun ont leur territoire. En fait, d'image générale, Chartres au Moyen-Âge n'est pas unifié sous un seul pouvoir. On n'a pas eu la commune de Chartres. On a plusieurs pouvoirs qui se partagent la ville, notamment donc l'évêque, le chapitre ou l'abbaye Saint-Père, qui est le deuxième pôle ecclésiastique le puissant de la ville.
Et j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait un comte, puisqu'on a un château à Chartres.
Alors, le comte de Blois apparaît sur la scène à partir du Xe siècle. Il profite de la minorité du Capet, donc qui est roi de France à partir de 987, pour s'emparer des comtés de Châteaudun et de Chartres. Et il installe son château en plein milieu de la ville actuelle, donc c'est l'actuelle place Billard. Et il l'installe sur un terrain qu'appartient d'ailleurs aux moines de la ville Saint-Père. Ce qui n'est pas sans déclencher quelques petites hostilités.
Et du coup, quel est le visage de la ville à ce moment-là, autour de cette période?
En fait, la ville, elle est organisée en deux pôles, toujours un peu comme actuellement. On a la ville haute qui est resserrée sur l'éperon, avec une enceinte qui est mentionnée au moins à la fin du IXe siècle.
D'accord.
Elle est mentionnée notamment dans les histoires de translation de reliques de Saint-Liboire en 836, les reliques de Saint-Vendry en 885, où les moines rentrent les reliques dans l'enceinte.
D'accord.
On a la création du château entre 956 et 960, donc comme je le disais juste avant, avec le comte Thibault le Tricheur. On a probablement de nombreux espaces vides. Les fouilles du parvis de la cathédrale ont montré qu'au 9e, 10e, c'était un ensemble de fosses. Le terrain du château, avant 960, c'est un espace vide. En Haute-Ville, on a plutôt des activités en lien avec la vie de la cathédrale, les chanoines. Il faut nourrir tout ce petit monde et puis aussi accueillir les pèlerins.
Donc on peut imaginer des boutiques, des choses comme
ça. Voilà, des boutiques. Tandis qu'en ville basse, on a l'abbaye Saint-Père qui est créée au 7e siècle avec un don par Bathilde, qui est la femme de Clovis II, un don important, vers 650. Et on a probablement des activités en lien avec l'usage de l'eau, donc moulin, tannerie. Évidemment, tout ça, c'est beaucoup d'hypothèses. On n'a rien de...
Oui, pour les activités en basse-ville, on a notamment quelques noms de rues qui peuvent nous évoquer certains métiers, mais on ne sait pas
Si
c'était attribué.
Voilà, on ne sait pas si les noms de rues sont... Ils peuvent être beaucoup plus récents.
Et a-t-on une idée du périmètre de la première enceinte que vous avez évoquée?
Alors, pour le moment, l'idée qu'on en a, c'est une idée aussi. Alors, c'est une limite que j'ai essayé de restituer sur le plan, que j'ai pas inventé tout seul, parce qu'il y a reprise aussi. J'ai repris ce qui avait été fait déjà par l'historiographie. Et on a une limite qui se borne au cloître Notre-Dame actuel, plus les éléments autour de Saint-Aignan, autour de la place Saint-Martin-le-Viandier. En fait, les limites sont la place du Cygne actuel et la place Marceau.
D'accord.
En gros, et puis de l'autre côté, on a le coteau. Et on a cinq portes, qu'on peut restituer cinq portes. Donc on a la porte neuf qui est en face de la cathédrale, qui donne sur la rue du Petit Beauvais. On a la porte Percheronne qui donne vers le Perche, la porte Nivelon qui donne place de l'Étape au Vin, la porte Évière et la porte Cendreuse qui donne sur la Basse-Ville.
Et d'ailleurs, la porte Évière, elle porte ce nom pourquoi, Thomas?
La porte Évière, ça serait en relation avec les éviers, qui étaient des personnes qui étaient chargées d'aller chercher l'eau en bas, à la fontaine Saint-André. ou à la rivière, et puis de la remonter pour les gens de la haute ville. Il n'y a pas d'eau en haute ville.
Et quels sont, du coup, les vestiges archéologiques que l'on pourrait encore voir de cette courte période ?
Donc, on a déjà le clocher-porche de Saint-Pierre, donc vers l'an 1000. C'est l'un des plus anciens bâtiments, si ce n'est le plus ancien bâtiment chartrain encore en élévation.
D'accord.
Qui a été... ils l'ont conservé au... Il était prévu la destruction dans un réaménagement de l'abbatiale, il a été conservé. Et on a dans la crypte de la cathédrale un mur qui est connu avec des assises de briques que l'historiographie a beaucoup vu comme un mur gallo-romain et qui dernièrement a été daté entre le 10e et le 11e.
D'accord.
Et c'est un mur de la crypte des églises antérieures.
Donc en fait un mur beaucoup plus ancien, mais qui atteste vraiment de cette période autour de l'an 1000. Merci Thomas pour ce premier aperçu de Chartres justement avant l'an 1000. Et avant de poursuivre, profitons d'une pause musicale aux sonorités médiévales choisies par Thomas, un clin d'œil donc avec le thème de l'émission du jour qui est évidemment fortuit.
Et ce sont les Cantigas de Santa Maria, des Maravillosos par l'ensemble Gilles Binchois. Les Cantigas de Santa Maria étant des pièces médiévales du 12e ou du 13e siècle.
Grandes ac est a Virgen fes, Madre de Deus maravillose fero, por una dona que foi una vez, asa egreia desta que seia, por nos e veja molas a faz, no paraíso o Deus dar quiso, goio e riso aquele praz. Maravilhosos e milagrosos e mui fremosos miragres das, Santa Maria
Suivons notre émission Histoire et Mémoire sur Radio Grand Ciel. Merci Thomas pour le choix musical. Thomas Lécroer qui est archéologue à la ville de Chartres et à qui nous faisons donc un voyage dans le temps, au temps de Chartres en l'an 1000. Thomas, y a-t-il un événement ou phénomène qui va faire ou qui fait évoluer la ville autour de l'an 1000 ?
D'une manière générale, autour de l'an 1000, on commence à arriver dans une période d'expansion démographique.
D'accord.
Et Chartres ne fait pas exception. On a des bourgs qui se créent à l'extérieur de l'enceinte, le long des voies d'accès essentiellement, autour des églises. Par exemple, on peut imaginer qu'on a un bourg qui se crée autour de l'église Saint-Michel, qui est mentionné dès 874, donc toujours une histoire de translation de reliques. Cette fois, c'est les reliques de Saint-Lomer.
Heureusement, du coup, qu'on a ces écrits religieux pour faire guise d'archives.
Et on sait que le bourg Muret existe, donc le long de la rue Muret actuellement. Le bourg Muret existe avant 1130, puisqu'on a la création d'une fortification pour protéger le bourg, donc une fortification en terre.
Et que vous avez pu constater lors d'observations archéologiques ou qui était connue ?
Elle est connue par les textes, elle est connue dans le cartellaire de l'abbaye Notre-Dame de Josaphat.
De Alève, qui était installée à Alève. Et... est-ce que cela se traduit du coup aussi en création d'édifices, je dirais, un peu officiels, comme des églises, pas juste des expansions de bourgs ?
Eh bien, Étant donné qu'on a de plus en plus de monde qui s'installe, des bourgs qui se créent, il faut évidemment créer des églises pour desservir toutes ces personnes, pour, entre guillemets, sauver suffisamment les âmes. Et par exemple, la Sainte-Foy, qui est à l'origine d'une chapelle qui est créée sous l'épiscopat de Fulbert, qui devient paroissiale en 1150.
D'accord.
On a quelques églises qui sont créées, l'église Saint-Saturnin qui après s'est retrouvée dans le centre-ville, qui à l'époque était créée au niveau de la place des Éparts, donc a été redécouverte dans les fouilles en 2005. Est cité pour la première fois entre 1060 et 1090, l'église Saint-Hilaire, qui est l'église paroissiale du bourg, qui se développe autour de l'abbaye Saint-Père, apparaît à la fin du XIe.
D'accord. Et lors des fouilles autour de l'hôtel Montesco, qui ont été réalisées récemment, et que vous avez menées donc avant la construction du futur hôtel de ville et de métropole, est-ce que vous avez découvert de nouveaux indices ou traces d'occupation, entre guillemets, exploitables pour vous, archéologues, pour mieux connaître Chartres à cette époque ? Parce qu'il y a eu une opportunité, là, grâce à cette fouille que vous dites,
qui
était assez difficile.
Oh
mince.
On est à l'extérieur de la ville du 10e, pour le coup, et aucune structure n'a été mise en évidence, et peu de mobilier. Après, le chantier est toujours en cours d'étude, donc... il y a un peu de mobilier, mais apparemment qui est un peu épars. Et...
Alors quand on dit mobilier, vous dites petits objets, c'est ça ?
Alors mobilier, c'est étymologique, c'est tout ce qui peut se bouger, c'est la céramique, c'est les os, puis après c'est tous les objets, tous les objets manufacturés.
Et du coup, est-ce qu'on a une évolution aussi au niveau de la situation politique ? Est-ce que le comte est toujours présent et actif ?
On peut imaginer que le comte est surtout installé à Blois et que sur place on a essentiellement un représentant. Mais comme je disais au début, la ville est divisée entre les différents seigneurs, donc notamment le clergé et la noblesse. Ils s'entendent pas forcément et c'est source de nombreux conflits dont on a les traces. On a les traces tout au long du Moyen-Âge. C'est aussi une source intéressante, tous les conflits territoriaux.
Et qu'en est-il de la vie économique telle que le commerce, par exemple ?
On peut penser que les marchés sont postés principalement aux portes de la ville. D'une part pour des questions de place en centre-ville. Après, au Moyen-Âge, il y a un tabou du sang en ville, ce qui fait qu'on place les boucheries à l'extérieur.
Ah, je ne savais pas.
Et il y a certains lieux qui en gardent la mémoire. Certaines hypothèses placent des boucheries à l'emplacement de la place du Cygne actuelle, ou alors en haut de la rue du Bourg, au niveau de la chapelle Saint-Aimant. Les noms de lieux gardent probablement le souvenir des marchés, mais après c'est pareil, on sait pas forcément de quand date le nom des places. La place de l'Étape aux Vins, la rue du Cardinal Pi, qui pendant un moment s'appelait la rue du marché aux chevaux, il y avait la rue du marché à la Filasse aussi, il y a la rue des vieilles boucheries, enfin.
Donc on a donc des indications, en tout cas dans les noms, et quelques indices pour dire que Chartres est quand même une ville où le commerce était florissant.
Oui, oui, oui.
Et servait.
Après, ce qu'il faut voir aussi, justement, ce qu'on a dans les canasses, c'est que le petit îlot qui était conservé au milieu de la place du Cygne, qui a disparu, on peut penser, en prenant exemple avec d'autres villes, que c'est des vestiges de halles.
D'accord. Les premières halles chartraines, peut-être.
Voilà,
Alors, on va quitter les places marchandes de Chartres en l'an 1000 pour un nouveau petit tour en musique et en bus, voilà, avec Gauvin Serre dans le vent du bus 96. Un autre titre choisi par Thomas, c'était une manière de vous annoncer donc la pause musicale dans votre émission Histoire et Mémoire.
Il y a une nounou et deux poussettes, une grosse valise qui gêne tout le monde, un gamin qui croque sa sucette, et les fossettes d'une jolie blonde. Il y a un mec qui sent pas la rose, et un Bangladais qui en vend. Il y a deux minettes qui prennent la pause, mais le selfie est décevant. Il y a même une étudiante japonaise qui s'offre une petite parenthèse dans le ventre du bus 96, dans le ventre du bus 96. Y a un chauffeur pas très aimable, un qui klaxonne sur tout ce qui bouge et qui trouve ça insupportable. Les cyclistes qui grillent les feux rouges. Y a des stratégies dans les têtes pour s'emparer des places assises. Y a des regards de lendemain de fête et quelques gouttes sur le pare-brise. Y a même un retraité très à l'aise qui porte au pied des Charentaises, dans le ventre du bus 96, dans le ventre du bus 96. Y'a un cravaté très en retard, qu'aurait mieux fait de prendre un taxi, une lycéenne plutôt couche-tard, qui révise sa géométrie. Un qui s'arrache ses derniers cheveux sur un mot fléché force 3. À chaque freinage un peu nerveux, c'est 4 ou 5, excusez-moi. Y'a même un type qui écrit sa thèse.
Après cette petite balade musicale, nous continuons notre émission Histoire et Mémoire avec moi donc dans le studio de Radio Grand Ciel, Thomas Descroer, qui est archéologue à la ville de Chartres. Et avec Thomas, nous visitons Chartres autour de l'an 1000. Alors autour de l'an 1000, avec la poussée démographique que vous nous avez expliquée, Thomas, la première enceinte du 9e, est-ce qu'elle va être dépassée? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Alors évidemment, donc, on a des bourgs qui se créent à l'extérieur de la ville progressivement. Et c'est à la fin du XIIe siècle, alors d'une manière générale encore, à la fin du XIIe siècle, on a un mouvement de création d'enceintes de réunion partout sur le territoire. On en connaît plusieurs, titre personnel, Poitiers, Niort, La Rochelle. Et à partir de 1181, l'évêque et le comte s'entendent pour construire une nouvelle enceinte.
D'accord.
Qui englobe les noyaux de population qui sont installés. Et c'est de Saint-Michel à Châtelet, donc c'est sur le plateau, c'est pour barrer le plateau. On a la trace d'un marché dans le cartulaire de Notre-Dame, qui est cité notamment dans la nécrologie de l'évêque, donc l'évêque Pierre de Selles, qui est l'évêque qui a passé le marché, qui explique qu'il a fait bâtir une enceinte, notamment en reprenant, c'est là que c'est intéressant, c'est en reprenant le tracé d'ancien fossé, donc peut-être une enceinte préexistante.
D'accord.
Au sud-est, l'enceinte s'accroche sur l'abbaye Saint-Père, qui était, elle a été fortifiée déjà entre 1033 et 1069 par l'abbé Landry. Et au nord-ouest, l'enceinte, elle va enserrer le quartier Beauvoir, ce qui est derrière la cathédrale.
D'accord.
Le quartier Beauvoir, actuellement, c'est la rue du Petit Beauvais, c'est le nom, pour rejoindre la levée de terre du Bourg Muret. Sachant que toute cette partie entre Châtelet et le Bourg Muret, on ne connaît pas forcément la datation, ça peut être beaucoup plus tard, ça peut être plus tardif. De même que l'enceinte qui est construite le long de la rivière. La seule mention qu'on a en 1181, c'est la construction de la place Châtelet à Saint-Michel.
Et du coup, combien de temps a pu prendre la construction d'une telle enceinte? Si vous dites que ça s'est peut-être fait de manière un peu plus décousue ou dans le temps?
Alors, on n'a pas d'indice précis, parce que pour le moment, ça reste encore un terrain d'exploration scientifique. Et par comparaison, avec d'autres villes, notamment en province par exemple, on sait qu'entre, en fonction des moyens et du danger, ça peut aller, on peut avoir un simple talus au départ qui est fortifié au fur et à mesure. La seule chose qu'on sait, c'est qu'à la fin du 14e, elle est presque entièrement maçonnée. Donc au maximum, on a 200 ans. Et par contre, les portes qu'on connaît, la physionomie des portes qu'on connaît, telles qu'on peut les restituer par rapport au plan plus tardif, donc Guillaume, Saint-Michel, Morard, on peut probablement 11e, 12e. On peut en avoir des types au 14e, mais
d'accord,
peut-être de cette époque.
Donc, on peut dire qu'à peu près 200 ans pour construire cette enceinte autour de la ville. Et au final, quelle pouvait être la longueur ou la grandeur de cette nouvelle enceinte?
Alors, 3,7 km pour environ 60 hectares.
C'est très précis.
C'est très précis, ça a été mesuré. Le tracé de l'enceinte actuelle est très transparent, on sait où il passe, c'est le tracé des boulevards. Donc c'est très très facile de le voir, on le voit encore un peu dans le cadastre. Et on a une dizaine de portes et poternes, donc les portes principales, je pense que tous les Chartrains les connaissent à peu près, la porte des Épars, la porte Saint-Michel, la porte Drouaise, puis auxquelles on rajoute quelques poternes qui sont des portes secondaires qui permettent l'accès à la rivière par exemple.
D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a eu quand même quelques trous à certains endroits dans cette enceinte, puisqu'il a fallu plusieurs années pour la construire ?
Ben, on pense que l'enceinte du 12e, c'est comme l'enceinte du 9e, il y avait beaucoup d'espaces vides. C'est notamment du côté du boulevard Châle, l'enceinte elle va enserrer les limites entre Sainte-Foy, le bourg Sainte-Foy et le bourg Saint-Michel. D'ailleurs, on se rend compte que l'enceinte passe au ras des églises. Mais entre les deux, il devait rester un espace vide, puisqu'on a un lotissement qui est créé. Donc, et à l'actuel, avec, entre la place des Halles actuelle et puis tout ce qui s'appelle, tout ce qui est la rue des Bouchers, la rue du Puy de l'Ours.
D'accord.
Donc, on sait qu'il y a un lotissement qui est créé ici. Et puis, dans la partie nord, on a les Jacobins qui s'installent en 1231. Aux actuelles rues Muret et rue Sainte-Thérèse, donc il y a toujours un couvent actuellement. Et par comparaison, les Jacobins s'installent en général dans des espaces vides.
D'accord. Et est-ce qu'il y aura d'autres extensions de la ville ailleurs ou plus tardivement des faubourgs ou autres ?
Eh ben, il y a suffisamment de trous dans l'enceinte, ou alors la ville n'a pas suffisamment grandi. Deux façons de voir les choses. Il y a suffisamment de trous pour que la ville puisse continuer à grandir tranquillement pendant tout le Moyen-Âge et toute la période moderne. Jusqu'en 1850, la ville ne quitte pas l'enceinte. À part quelques faubourgs, le Grand Faubourg, le Faubourg La Grappe, qui sont créés le long des voies d'accès. Mais dans l'ensemble, quand on voit le visage de la ville sur le parcellaire de 1828, on s'aperçoit qu'elle n'a pas énormément, elle s'est pas énormément développée. Et dès qu'on passe les limites, on est à la campagne.
Donc du coup, notre quartier Chanzy ou côté théâtre, ça date après cette date de 1850 ?
Ah oui, ça, il faut attendre largement après 1850. C'est, à l'époque, c'était les terrains, c'était le clos Notre-Dame, donc c'était des clos qui appartenaient au chapitre de la cathédrale, avec des vergers, des vignes, qui est saisi au moment de la Révolution. Et puis après, qui est revendu, qui est racheté par la ville pour en créer un nouveau quartier, puisque la ville médiévale, avec ses petites rues sombres, ses petites maisons, n'est plus trop au goût déjà de la mode hygiéniste de l'époque, et puis aussi de la bourgeoisie propriétaire chartraine, qui veulent se faire construire des grands hôtels particuliers à l'extérieur, avec des grands espaces aérés, des jardins. Donc c'est le quartier Chanzy actuel.
Eh ben merci Thomas pour cet aperçu et puis là ce petit saut dans le temps et au-delà donc du 12e donc, qui était le début de la reconstruction de la cathédrale Fulbert qui a elle brûlé en 1194 pour mémoire, on entre donc dans une nouvelle période de la vie de la cité hein, qui va donc évoluer et qu'on pourra découvrir dans de prochaines émissions. En tout cas merci Thomas, vous pouvez d'ailleurs réécouter vos émissions Histoire et Mémoire sur le site de Radio Grand Ciel ou chaque dimanche à 17h, ou aussi le mercredi à 12h au besoin, voilà. Et pour voir le plan de Chartres en l'an 1000 qu'on a évoqué avec Thomas pendant l'émission, vous pouvez consulter la page archéologie du magazine Votre Ville sur chartres.fr. Eh bien, au mois prochain pour une nouvelle émission d'Histoire et Mémoire. Thank you.
Thank you.